France Culture.
Choses qui sont bien quand elles sont grandes.
Ie.
Les maisons.
Ebukuro.
Les sacs de provisions.
Hoshi.
Les moines.
Kudamono.
Les fruits.
Ushi.
Les buffles.
Matsu no ki.
Les pommes de pin.
Suzuri no sumi.
Les bâtons d'encre.
Onoko no me no hosoki wa onnabitari. Mata, kanamari no you naran mo.
Les yeux d'un serviteur. S'ils sont trop minces, ils ressemblent trop à ceux d'une femme. Mais s'ils sont ronds comme un bol en métal, c'est encore effrayant.
Hiyoke.
Les braseros.
Hozuki.
Les coquerets.
Yamabuki no hana.
Les fleurs de corette.
Sakura no hanabira.
Les pétales de cerisier.
C'est Shonagon, le parti pris des choses. Michel Pomared, Assia Weber.
Sei Shonagon est un pseudonyme. Donc Sei, c'est la lecture à la chinoise du premier caractère de son nom de famille, Kiyohara. Et Shonagon, c'est une fonction de cour, le petit référendaire. Toutes les dames qui servaient à la cour avaient un pseudonyme et on ne connaît pas leur nom véritable.
Michel Vieillard-Baron, directeur d'études en philologie japonaise à l'école pratique des hautes études.
Alors c'est une femme qui est née donc en 966 dans une famille de lettrés, les Kiyohara. Elle a reçu une très bonne éducation et notamment en lettres chinoises. Et il faut savoir qu'à l'époque de Heian, le chinois était la langue de l'érudition, des textes officiels, des textes religieux et de la littérature dite sérieuse. Un statut très semblable à celui du latin en Occident. Donc les femmes, en principe, n'étaient pas censées connaître le chinois, mais nous savons que les femmes de lettres, les femmes érudites, le connaissaient. Sei Shonagon était la fille et l'arrière-petite-fille de poètes très connus. Et donc ce qui signifie que son père lui a appris à composer correctement des poèmes de 31 syllabes, les waka. La composition poétique et notamment la composition de waka jouait un rôle fondamental à la cour puisque la plupart des échanges se faisaient sous forme de poèmes. Donc qu'il s'agit de billets galants, de demandes de promotion, de remerciements, tout se faisait sous forme de poèmes. Et donc si toutes les personnes vivant à la cour étaient censées savoir composer, hommes et femmes, il y avait qui ne pouvaient pas le faire et donc on devait avoir recours à des personnes donc susceptibles de composer dans les situations les plus officielles ou les plus privées. Et donc Sei Shonagon était capable de composer dans ces circonstances, mais il faut aussi également savoir que ce n'est pas pour son talent poétique que Sei Shonagon est passé à la postérité, mais c'est pour la qualité exceptionnelle de sa prose poétique. C'est vraiment dans la prose poétique que le génie de Sei Shonagon se révèle pleinement. C'est en tant que femme lettrée qu'elle est entrée au service de l'impératrice Teishi, donc épouse de l'empereur Ichijo, et en tant que dame d'honneur, Sei Shonagon devait tenir compagnie à l'impératrice, prendre part aux activités de sa cour, accompagner l'impératrice lors de ses sorties et surtout écrire des lettres ou composer des poèmes en lieu et place de la souveraine si c'était nécessaire ou en lieu et place de ses compagnes.
Choses qui font battre le cœur. Élevé de petits moineaux. Passer en voiture devant un endroit où jouent des nourrissons. Faire brûler des encens précieux et se coucher seul. Voir que le teint de son miroir de Chine est un peu sombre. Lorsqu'un homme de haut rang arrête sa voiture devant une maison et envoie son serviteur s'enquérir de quelque chose. Se laver les cheveux, se farder et se vêtir d'un vêtement parfumé d'encens. Plus encore, si personne n'est là pour nous voir, alors on ressent en son cœur un fort charme. Si c'est une nuit où l'on attend un homme, le bruit de la pluie, le vent sur les cloisons fait sursauter malgré soi.
Je l'imagine dans un univers parfumé, puisqu'elle décrit très bien qu'elle se couche avec des kimonos qui sont parfumés avec un encens précieux. C'est le summum du luxe et de ce qui est agréable pour elle. Donc elle est incarnée dans cet univers d'odeur, je pense. Elle nous parle de la sueur, l'odeur de sueur, comme quelque chose d'assez agréable, qui rappelle l'été quand on est déjà un peu au début de l'automne.
Evelyne Le Signe-Odoly, maîtresse de conférence au département des études japonaises à l'université de Strasbourg.
Bien sûr, déjà, c'est une femme de cour de cette époque-là. Donc, on l'imagine, selon l'usage de cette époque, avec les sourcils épilés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'allusions au fait qu'elle s'épile les sourcils. Donc les sourcils sont tracés, sont dessinés au milieu du front, très haut et très court, assez épais. Elle se teint les dents en noir, comme c'était l'usage à l'époque, et c'est signalé dans le texte. Elle porte des vêtements qu'on appelle les kimonos à 12 épaisseurs. Il n'y en a pas vraiment 12, mais donc à épaisseurs multiples, avec des couleurs assorties qui correspondent à des combinaisons de couleurs selon les saisons.
Elle ne portait pas de bijoux, donc ça c'est la caractéristique de l'époque. Donc contrairement aux femmes de la cour de Chine qui portaient des bijoux, les femmes du Japon ne portaient pas de bijoux. Et donc les principales manières d'exprimer donc l'élégance étaient par le choix des vêtements et la beauté des cheveux qui devaient traîner derrière elle quand elle se tenait debout.
Alors là on a une description dans le texte qui est très concrète puisque à un moment elle dit qu'elle a honte, qu'elle n'est pas assez belle. Et notamment un des éléments qu'elle donne, c'est qu'elle dit que ses cheveux sont rouges. Alors, elle n'est pas rousse. Elle a les cheveux probablement qui sont noirs, qui tirent un petit peu vers le rouge. Ce qui est à l'encontre du canon de beauté où une belle femme doit avoir les cheveux noirs, un peu aile de corbeau, avec des reflets verts ou bleus. Donc, elle n'est pas comme ça. Et elle dit un truc assez drôle. Elle dit que ce qu'il y a de plus noir dans ses cheveux, c'est les postiches, les extensions, en fait, une espèce de perruque partielle qui sert à allonger les cheveux. Donc, elle n'est pas dans les canons classiques. Peut-être que c'est juste de la modestie ou un trait d'autodépréciation. De même, à un moment, un personnage qui s'appelle Yukinari, qui est un noble de très haut rang, dit que il aime les femmes qui, même si elles ont des yeux qui sont trop grands ou le nez qui est un peu épaté, en fait, ce qui est important chez une femme pour lui, c'est qu'elle ait un beau menton. Et il demande à voir le visage de ses shonagon. Bon, les femmes se dissimulent, donc elle se dissimule derrière un éventail. Mais en fait, de cette petite scène qui est assez drôle, beaucoup de lecteurs ont considéré que ses shonagon, elle avait des yeux trop grands, un nez un peu trop épaté, mais un très joli menton bien dessiné, bien arrondi. Donc ça, c'est un peu des projections qu'on fait. Mais à cause de cette scène aussi, elle se traîne une réputation d'être une femme pas très belle. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup redit, même dans des récits contemporains qui reprennent les notes de chevet. On la décrit comme pas belle. Mais on n'a vraiment aucun indice sur ça, si ce n'est une postérité, une projection, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les représentations dans la peinture ou dans les dessins, on la représente souvent de dos. Peut-être, parce que, en fait, il y a cette réputation de femme pas très belle.
Mais, vous savez, parfois, il y a des femmes et hommes qui...
La poétesse Ryoko Sekiguchi.
En parlant avec la personne, qui devient de plus en plus beau, de plus en plus belle. Et je pense que ça fait partie de ce genre de personnes qui, au premier abord, n'est pas très, très charmante, mais que, après avoir parlé avec elle, on ne peut plus s'en passer. En fait, on veut toujours être, par exemple, dans la cour, à côté d'elle. Parce que c'est là où il y a des choses intéressantes qui se passent. Même si la soirée n'est pas intéressante, avec elle, ça devient intéressante. Alors moi j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Je pense que je peux être très amie avec elle et que c'est quelqu'un qui en fait on sent qu'il a toujours qui peut être passionné par plein de choses et qui peut être aussi intéressé par des choses à la fois donc très très belles mais à la fois parfois moches, à la fois très très quotidien et en fait je pense que c'est quelqu'un avec une femme avec laquelle on s'ennuie jamais. Non ?
Medeta kimono. Karanishiki. Kazari tachi. Tsukuri botoke no mokue. Iroai bukaku hanabusa nagaku sakitaru fuji no hana. Matsu ni kakari taru. Rokui no kurodo. いみじき君たちなれども、絵師も北間の綾織物を、心に任せて来たる青色姿などの糸めでたきなり。ところの雑色、ただの人の子供などにて、殿原の侍に、し、五位のつかさあるが霜に打ちいて、何とも見えぬに、クロードになりぬれば、えも言わずぞ、あさましきや。Chose somptueuse. Un brocart de Chine. Un sabre d'apparat. Une image du Bouddha en marqueterie. Une grappe de glycine.D'une teinte foncée et très longue, suspendue à un pin. Des membres de la chancellerie privée, du sixième rang. Comme ils sont somptueux, vêtus de leur manteau vert en soie damassée, qu'ils peuvent porter à l'envi.
Les femmes de la noblesse devaient demeurer cachées des regards masculins. Elles ne pouvaient être vues que des hommes de leur famille proche, leurs pères, leurs maris, leurs frères ou leurs fils. Et ceci avait pour effet que les femmes vivaient cachées par des stores, des écrans, des paravents, dans des espaces presque exclusivement féminins. Il ne serait jamais venu à l'idée d'une femme de la noblesse de sortir de chez elle ou de sortir de son palais sans être complètement cachée. Donc cette règle extrêmement contraignante empêchait les femmes de circuler librement, hein. Les hommes qui souhaitaient rencontrer des femmes discrètement venaient souvent la nuit, de manière à ne pas être vus, et devaient repartir avant le lever du jour.
Dans ce livre, rédigé durant des heures de désœuvrement lorsque j'étais retirée chez moi, j'ai rassemblé par écrit toutes sortes de choses vues ou ressenties, pensant que personne ne le lirait. Or, tandis que je croyais le tenir bien caché, car il contient des passages que je dirais moi-même excessifs et qui pourraient sembler désobligeants, voici qu'il en est venu à être lu dans le monde, bien malgré moi.
« Makura no Soshi, donc c'est le titre original de Note de chevet.
Oui.
Comment est-ce qu'on aurait pu le traduire autrement que par Note de chevet?
Ben, on dit que c'était, en fait, on a offert à Seisho Nagon une liasse de papier et qu'elle gardait cette liasse de papier près de son oreiller pour pouvoir noter tout ce qu'elle lui venait à l'esprit. Mais donc, Makura, ça veut dire l'oreiller, hein. Donc, et Soshi, c'est le livret. Donc, c'est un livret ou une liasse de papier conservée près de l'oreiller.
Bon, déjà, il y a un problème avec la traduction française du terme note de chevet, qui est vraiment la traduction du titre, hein, qui est vraiment intimement liée à la compréhension qu'on avait du texte dans les années 1910-1920, puisque André Bojard, le traducteur, lit des éditions de cette époque-là. Et il lit une édition où l'épilogue commence en disant « Il fait sombre, je ne vais bientôt plus voir, je vais devoir m'arrêter d'écrire ». Or, cette phrase-là n'existe pas dans le Makura no Soshi, dans les notes de chevet que moi je lis, parce que ça n'est que dans certains manuscrits. Donc en fait, cette idée-là qu'elle écrit le soir, quand elle a du temps libre, conditionne ce titre de notes de chevet.
Tayumaruru mono. Shōji no hi no okonai.
Chose que l'on ne s'empresse pas de faire. Les obligations rituelles d'un jour d'abstinence. Les préparatifs d'un événement encore lointain. Une retraite prolongée dans un temple.
Hitoni anazurareru mono. Tsuiji no kuzure.
Chose qui attire le mépris. Un mur d'enceinte abîmé. Une personne que tout le monde sait être trop bonne.
Donc c'est une compilation d'environ 300 textes plus ou moins courts, qui sont de trois sortes. Il y a des listes, des pensées ou descriptions de petit tableau situation et des courts récits de la vie à la cour qu'on situe très bien entre 995 et l'an 1000 à peu près. En somme, c'est une sorte de journal ou des mémoires d'une femme de cour, mais ça serait un journal ou des mémoires qui seraient dans le désordre et de façon fragmentaire par bribes, dans lequel sont insérées des listes et des petits tableaux.
L'impératrice, qui venait de recevoir des liasses de papier de la part du tiers-ministre, son frère, dit « Que pourrions-nous écrire là-dessus ? » Chez l'empereur, ils ont fait une copie des chroniques historiques. Alors je répliquais « Il convient d'en faire un oreiller. » Sur ce, l'impératrice déclara « Soit, c'est pour vous. » Aussi, pour remplir cette colossale quantité de papier, j'ai noté toutes sortes de choses. Des bizarreries, si bien qu'on y trouve quantité d'inepties.
C'est un texte drôle, c'est un texte qui est vivant, qui apporte beaucoup d'énergie. Et puis, il y a un ensemble de références qui sont liées, bien sûr, à la vie de la cour de l'époque et à une culture qui baigne dans un usage social de la poésie, qui habite et qui nourrit ce texte. En fait, c'est un texte qui est tendu entre quelque chose de très intime, de très sensible, et quelque chose de très public, de très montré, de très collectif. Et la clé de l'interprétation, elle est dans cette tension.
La flûte traversière est terriblement charmante. Le son nous en parvient du lointain, mais voici qu'elle est toute proche, et ce n'en est que plus charmant. Elle était proche. Mais elle s'éloigne maintenant, et cela encore est charmant. qu'il soit en voiture, à pied, à cheval, et quel que soit l'objet de son déplacement, en toute circonstance, celui qui la porte peut la placer dans son giron sans qu'elle soit visible le moins du monde. Rien n'est plus charmant.
車にても価値よりも馬にても全て懐に差し入れてもたるも何とも見えずさばかりおかしきものはなし。
J'ai découvert ces Shonagons un peu comme tous les autres Japonais, c'est-à-dire, je pense, 15 ans, c'est-à-dire avec le manuel scolaire. C'est une des premières choses, sinon le premier texte qu'on apprend lorsqu'on apprend la littérature classique. Parce que d'une part, les textes sont courts et relativement compréhensibles, faciles à comprendre. Mais aussi, je pense que avec ce texte, on est tout de suite dans l'intimité d'une femme qui est quand même assez extraordinaire, parce que ce que ces Shonagons sentent, ce que ces Shonagons disent de sa vie quotidienne, ou bien ses sentiments, il y a quelque chose d'universel. On peut tout de suite s'identifier à cette femme qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais qu'on peut avoir justement un sentiment avec elle. Et je pense que c'est ça qui est vraiment unique dans ce texte.
Kono hana wa koki mo usuki mo koubai.
Fleur des arbres.
Sakura wa hanabira ooki ni.
La fleur du prunier rouge, qu'elle soit foncée ou pâle.
Ha no iro koki ga eda hosokute sakitaru.
La fleur de cerisier à grands pétales, le feuillage foncé sur des branches minces. Les fleurs de glycine sont splendides lorsqu'elles forment de longues grappes de couleur foncée.
Fuji no hana wa shinai nagaku, iro koku sakitaru, ito medetashi.
C'est une œuvre absolument unique et hybride qui contient des passages qui le rapprochent des mémoires des dames de la cour, où on décrit des cérémonies qui se sont passées à la cour. Il contient également des passages de réflexion personnelle. Si vous lisez l'incipit, les premières lignes des notes de chevet, c'est absolument éblouissant, mais on a dans différents passages des descriptions de paysages qui sont d'une beauté absolument exceptionnelle. C'est vraiment la prose poétique de ces Shonagons que je trouve absolument magnifique et qui font de ce texte un chef-d'œuvre.
Au printemps, l'aurore. À la lisière des monts, le ciel blanchissant lentement s'illumine un peu, puis s'étire des nuages teintés de pourpre. En été, la nuit. Les nuits de lune, bien entendu, mais plus encore les nuits obscures, lorsque volaient en grand nombre les lucioles. Certes, c'est charmant aussi lorsqu'il n'y en a qu'une ou deux qui vont en luisant doucement. Lorsqu'il pleut, c'est charmant encore.
En venant en France, j'ai eu beaucoup d'amis auteurs, écrivains, poètes qui m'ont posé la question sur ces Shonagons, sur Makranos aussi, qui voulaient écrire, qui voulaient imiter un peu le style, bien la structure de Makranos aussi. Donc c'est, je pense qu'il y a quelque chose de assez universel qui ne... Ça a son charme, la nature du texte qui continue à être contemporaine, non seulement pour les Japonais, mais aussi, je pense, pour beaucoup de gens, en fait, quelle que soit la nationalité.
En automne, le crépuscule du soir. Il est émouvant de voir, lorsque le soleil du couchant étend ses rayons tout près de la ligne de crête des monts, les corneilles s'en retournant au nid, par trois et par quatre, par deux et par trois. C'est encore plus charmant quand on aperçoit, minuscule, un vol d'oies sauvages. Puis, lorsque le jour a totalement disparu, on entend le bruit du vent, le chant des insectes, et tout cela nous émeut fort.
Le style de ces sonagons est très vif, et très rythmé, et très direct. Quand elle aime quelque chose, ou bien quand elle n'aime pas quelque chose, quand elle juge, quand elle est vraiment franche, mais sans être vulgaire, en fait, c'est un constat, paf, qu'elle pose comme ça, direct. Et aussi, je pense que qu'elle se permettait d'avoir ce style grâce aussi à son intelligence. Je pense que qu'elle avait une sorte de confiance en elle, à son regard, à son esthétisme, à ses jugements parfois personnels. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à la fois, on l'aime tout de suite, ou bien ça agace certaines personnes, notamment les hommes. et aussi, mais on sent par ces phrases qui ne sont jamais très très longues, chaque fois j'ai pas d'autre mot que d'intelligence. En fait, on sent l'intelligence qui arrive jusqu'à nous, mais directement.
En hiver, le point du jour. Les jours de neige, évidemment. Mais le temps des très blancs frimas est fort bien aussi. Ou du moins lorsqu'il fait très froid. En hâte, on allume le feu, on va et vient en portant les tisons. Cela convient parfaitement pour un matin d'hiver. Lorsque le jour avance, c'est moins bien. Le froid faiblit et se fait moins sévère. Dans les brasiers, les tisons blanchissent en se couvrant de cendres.
Il y a 5 ans, il y a une Finlandaise, autrice finlandaise, qui est tombée amoureuse de ces shonagons, mais vraiment littéralement tombée amoureuse de ces shonagons, et qui voulait la rencontrer au Japon, et qui a décidé de tout plaquer pour venir et habiter à Kyoto. Et donc, bon, bien sûr, le Japon d'aujourd'hui n'est pas le Japon de l'époque de ces shonagons, mais elle écrit des lettres. Ah, c'est Shonagon. Alors, elle dit, cher C. Et elle raconte sa vie de Kyoto d'aujourd'hui. Et elle a écrit un livre qui a été traduit en japonais, qui a bien marché. Il y avait un autre livre, enfin, d'une italienne, donc, qui était passionnée des histoires d'amour de l'époque de Heian. Et en fait, qui voulait vivre leur histoire d'amour et qui a écrit un livre, enfin, plusieurs livres aussi, et qui ont été traduits aussi en japonais et qui sont lus, mais par des japonaises. Donc, il y a une sorte de sororité entre des finlandaises, des italiennes et des japonaises, à travers leur histoire d'amour ou bien à travers leur vie quotidienne. Et c'est ce que je trouve magnifique, non?
Susamaji kimono.
Chose mal à propos.
Kiru hoyuru inu.
Un chien qui aboie le jour.
Haru no ajiro.
Un barrage de pêche au printemps.
Sanshigachi no kobai no kinu.
Un vêtement aux teintes de prunier rouge porté au 3e ou au 4e mois.
Ushi shinitaru ushikai.
Un vacher dont le buffle est mort.
Chigo nakunaritaru ubuya.
Une chambre de naissance où l'enfant est décédé.
Hi okosanu subitsu. Jikaro.
Des brasiers et braseros dans lesquels aucun feu ne prend.
Hakase no uchi tsuzuki onna go umasetaru.
Un professeur à qui il ne naît que des filles.
Katagae ni ikitaru ni aruji senu tokoro.
Un lieu où personne ne vous accueille alors que vous êtes en déplacement pour éviter une direction néfaste. C'est encore plus mal à propos si cela tombe le jour de changement de saison.
Maite. Sechibun nado wa ito susamaji.
Je me rappelle une des premières choses qui m'a vraiment interpellée, si ce n'est interloquée, c'est quand elle dit, par exemple...
La traductrice, elle, Corinne Atlan.
Elle cite comme une faute de goût, par exemple, je crois que c'est dans les choses désolantes, donc un manteau rouge prune, rouge prunier, au troisième ou quatrième mois, puisque les pruniers étant en fleur au deuxième mois, enfin en février aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, vers la fin de l'hiver, mettre cette couleur à une période plus tardive, c'est bien évidemment une faute de goût. Et puis juste après, donc toujours dans la même liste de choses désolantes, elle cite un bébé mort dans une chambre d'accouchement. Et donc là, on est vraiment saisi, quoi. Et c'est ça la grande originalité en fait de ces listes, c'est la façon dont elle met comme ça côte à côte des choses qui semblent n'avoir rien à voir, ou en tout cas dans le niveau de désolation, puisque là il s'agit de choses désolantes, mais pas du tout le même. Et puis il y a des choses aussi beaucoup plus réjouissante aussi, que j'ai toujours aimé beaucoup, c'est quand elle parle des choses qui sont éloignées bien que proches, et les choses qui sont proches bien qu'éloignées. Par exemple, le paradis, la route d'un bateau, les relations entre un homme et une femme. Et inversement, les choses qui sont éloignées bien que proches, les fêtes dans les environs du palais, les relations entre frères et sœurs ou parents quand ils ne s'aiment pas. Donc, tout ça, c'est, il y a une, à la fois, il y a une étrangeté, en fait, c'est ça dans ces listes, comme dans le texte de manière générale, c'est qu'il y a une étrangeté totale, aussi bien ce qu'elle raconte, ce qu'elle décrit, que dans la façon dont c'est, le style dans lequel c'est écrit. Et en même temps, il y a une universalité, il y a une familiarité, il y a des choses qui nous parlent, et ça, c'est peut-être ça qui me frappe le plus, en fait, dans ce texte. C'est la façon dont c'est extraordinairement vivant. On a tout de suite les images, on a les sensations, on a les émotions. Elle nous parle à nous, elle parle de nous. Donc c'est, enfin, de moi en l'occurrence, pour ma lecture à moi, j'ai sans arrêt l'impression que ça me ramenait à des choses vécues, connues. Et c'est à 1000 ans d'intervalle, c'est ça qui est extraordinaire. Ça fait aussi partie des choses proches, bien qu'éloignées.
Les notes de chevet de Seychonagon, c'était donc de la littérature donc en langue vernaculaire, et ça n'était pas la grande littérature à l'époque. Hein. La grande littérature était la littérature écrite en chinois. Et donc, en fait, si vous voulez, c'était presque des bluettes pour bonnes femmes, les romans du Genji ou les notes de chevet de Seychonagon. Et c'est leur extrême qualité qui a fait que dans la postérité, enfin, on a considéré ces œuvres comme des chefs-d'œuvre. Mais jamais on n'aurait imaginé que ces textes auraient une telle postérité au moment où ils ont été écrits.
Elle a énormément d'humour, donc ça, évidemment, mais ce qui la faisait rire, elle, me fait rire aussi. Quand elle raconte les hommes donc, qui partent le matin à l'aube, puisque c'était les règles de bienséance, quand un homme lui rendait visite, il devait partir avant l'aube, avant le chant du coq. Et donc, elle a des pages très drôles où elle décrit, voilà, alors l'homme qui, selon elle, qui se comporte mal parce qu'il fait beaucoup de bruit, voilà, il se lève, il fait soyo-soyo en froissant des feuilles parce qu'il trouve plus son carnet, fouta-fouta avec son éventail qu'il agite. Alors, ça l'agace énormément. Et puis, elle décrit aussi l'amant, ou plutôt le galant, comme elle dit, le galant idéal qui, lui, se lève mais en disant que la nuit n'a pas été assez longue. Enfin, elle dit des choses sur les rapports entre hommes et femmes qui sont vraiment délicieuses, parce qu'on se dit... mais on est peut-être aussi un petit peu dans le malentendu, parce qu'il y a beaucoup de choses où on se dit, ben finalement, c'est très proche des sensations ou des sentiments qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais en réalité, je pense que il faut pas se tromper aussi, c'est-à-dire que c'est une culture quand même très lointaine, dont on sait peu de choses finalement, mais on a une image. Alors, c'est vrai qu'on a une image non seulement de ce qu'elle vit, mais elle aussi du personnage qu'elle était, alors qu'en réalité, on sait très peu de choses sur elle. Mais moi, j'imagine une personne très vive, avec un grand sens de la répartie, avec beaucoup de culture, qui aime observer. Voilà. Alors, et dans certaines de ses, enfin, ce que j'appellerais des qualités chez elle, après, parfois, elle est très caustique. En fait, elle est comme une espèce de miroir, et je pense qu'elle fait cet effet probablement à tous ses lecteurs et ses lectrices. Elle observe et elle a des réflexions qu'on peut se faire intérieurement dans certaines circonstances, mais peut-être qu'on ne les formulerait pas, mais elle est très piquante, en fait. Hein. Elle a un esprit très piquant, un esprit très vif. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup chez elle.
Alors, l'importance de McElnaughs aussi et de cette autrice, c'est Shonagon, est indéniable, même si dans le temps moderne, certains écrivains qui n'apprécient pas la présence des autrices intelligentes, le descendaient. Enfin, on voit parfois les commentaires des auteurs du 19e siècle, des grands auteurs du 19e siècle, hommes, qui disent « Ah oui, non mais c'est Shonagon, c'est la jupe, mais c'est pas intéressant, mais c'est la grosse tête, voilà. Mais je pense que si elle était intéressante, enfin, McElnaughs aussi est importante, ce n'est pas non seulement pour l'œuvre en soi, mais aussi parce que c'est un peu grâce à McElnaughs aussi, entre autres, et c'est que ce genre littéraire a été toujours apprécié et qui a perpétué et qui perpétue encore aujourd'hui.
Pour l'époque, c'est pas le représentant d'un genre. Pour l'époque, c'est un texte qui ressemble à peu près à rien, si ce n'est qu'on peut l'englober au sens large dans la grande famille des journaux féminins ou des mémoires. Donc, en japonais, on appelle ça Nikki, qui est d'ailleurs un genre assez accueillant, assez polymorphe, puisqu'on y trouve vraiment des journaux au jour le jour, comme le journal de Murasaki Shikibu, ou des mémoires, comme les mémoires d'une éphémère, Kageiro Nikki. Donc, on peut considérer que les notes de chevet sont un peu de cette grande famille des récits écrits par des femmes, autobiographiques ou quasi autobiographiques, avec cette particularité d'être très morcelée, fragmentaire et dans le désordre. Et puis, d'intégrer des listes. Les listes existaient par ailleurs, la littérature de listes existait en Chine et au Japon, mais d'avoir les deux ensemble, avec en plus ces mini-tableaux, on n'a pas ça en tant que tel. Donc, en tant que tel, c'est un peu un ovni, c'est un texte un peu tout seul. Et il y a un texte du XIVe siècle qui s'appelle « Les heures oisives » du moine Kenko, qui se revendique clairement de la filiation de ce texte-là, qui contient également des choses vues et entendues, des récits personnels, des réflexions générales. En fait, c'est un essai qui contient également quelques listes et qui s'inspire explicitement. Hein, l'incipit, le début des heures oisives, cite explicitement l'épilogue des notes de chevet. Et donc, ça ne fait que deux textes, mais la postérité, donc plusieurs siècles après, on a considéré qu'il y avait là un genre qu'on a appelé les genres au fil du pinceau. Mais à l'époque de Seishonagon, il n'existe pas ce genre. Et même au Moyen-Âge, ce genre n'existe pas, parce que deux œuvres, ça ne fait pas un genre. Mais on a considéré qu'il y avait une particularité qui était une liberté de l'écriture, une écriture qui suit l'inspiration de la main, qui suit l'inspiration du pinceau. Et les gens du XVIIe siècle, pour le décrire, parlaient d'amusement du pinceau. Futesusabi, le fait que le pinceau s'amuse, le pinceau est en liberté. Et donc de ça, en fait, plus tard, on a donné un nom qui est zuishitsu, qui est le genre des essais au fil du pinceau ou écrits au fil du pinceau. Et le fait de considérer qu'il y avait là un genre a donné la liberté à des écrivains de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, notamment Masao Kashiki, de créer un nouveau genre. Donc en fait, il y a eu une inspiration, une création rétrospective d'un genre qui a autorisé en fait ces auteurs-là à se dire « Ah ben, moi aussi, je peux écrire de façon fragmentaire, de façon libre, de façon totalement personnelle et originale, tout ce qui me passe par la tête. »
Chose qui attire le mépris.
Tsuiji no kuzure.
Un mur d'enceinte abîmé.
Amari kokoro yoshito, hito ni shirarenuru hito.
Une personne que tout le monde sait être trop bonne.
Dans cette énumération de choses, à la fois qui paraît à la fois concrète et un peu brute, un peu sec, mais en même temps, il y a une envie, il y a un désir de faire exister cette chose. On sent l'attachement à la vie, à des choses, ce qui fait que ces choses existent jusqu'à aujourd'hui, ce que je trouve assez extraordinaire. Quand j'ai commencé à écrire la poésie, oui, on peut dire que Seishonagon est à côté de moi, dans le sens, elle est en quelque sorte formaliste aussi. Et comme j'étais poète formaliste pur et dur, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très inspirant, parce que on présente Makulanosu aussi comme un texte d'essai. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a à la fois une partie on peut qualifier comme journal intime, il y a aussi une partie qui est un peu chronique de la cour, il y a plus donc des textes qui sont proches d'essais standards, et il y a l'énumération, le listing des choses qui sont très contemporaines aussi. Et donc, et tout cela est agencé et composé de manière mais très organique dans un seul texte. Donc c'est, vous savez, enfin j'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui on réduit ces genres littéraires, on découpe à des petits morceaux, et quand c'est essayé, il faut que ça soit comme ça et pas un autre. Alors que ce qu'a fait Seishonagon était beaucoup plus complexe.
Chose mal assortie. La neige qui tombe sur une pauvre demeure, et si elle est baignée d'un rayon de lune, c'est tout aussi dommage. Par une nuit où la lune est claire, des charrettes qui se croisent. Ou encore, un beau buffle de couleur beige attelé à une charrette. Ou encore, voir marcher une femme âgée avec son ventre engrossé. Si cette femme est celle d'un jeune homme, c'est inqualifiable. Et que dire si de plus elle se fâche sous prétexte qu'il va voir une autre femme? Un vieil homme au sommeil lourd, ou encore un tel homme, la barbe fournie, qui grignote des glands. Une femme qui n'a même plus de dents et qui mange une prune salée, montrant qu'elle la trouve acide. Une femme de rang modeste, portant des pantalons rouges. On ne voit que cela ces temps-ci.
La langue, c'est le japonais de l'époque de Heian, donc c'est vraiment le modèle de la belle langue classique japonaise. Mais si je compare à d'autres textes quasi contemporains, comme le roman du Genji, qui est de quelques années après, c'est une langue qui est beaucoup plus orale. Il y a des moments, c'est pas très facile à traduire, parce que quand on traduit en français, c'est trop répétitif, parce qu'on va dire « et encore, et encore, et encore ». Mais le texte est comme ça, en fait. Le texte est répétitif. C'est comme si on se reprenait et on dit « Ah mais tiens, je viens de penser à ça, et donc je vais rajouter « et encore ça ». Ou alors, il y a un petit mot qui est naso, qui veut dire « etc. » ou des choses comme ça. Donc c'est une langue qui... déjà, c'est pas toujours la même langue partout. On a des passages comme « l'incipit », le début, sur « Au printemps, l'aurore », qui est très écrit, qui est une langue très poétique. Et en fait, on a parfois l'impression que les poèmes... Dans les notes de chevet, les poèmes ne sont pas si poétiques. Ils ont un rôle social, un rôle d'échange social, et que la prose est parfois plus poétique que les poèmes. Et c'est le cas notamment sur l'incipit, au printemps l'aurore. C'est le cas dans une description très belle d'une voiture tirée par des bovins qui passe sous la lune. Une lune très claire qui fait que la rivière qu'on traverse à gué fait des éclaboussures qui sont comme des cristaux. Donc là, on est dans des passages qui sont très écrits. La prose est très lumineuse. Et puis, il y a des récits. Donc, typiquement dans les récits, on a l'impression que c'est écrit de façon spontanée, que c'est des esquisses de texte et que les phrases sont parfois pas terminées. Donc il y a vraiment des ruptures de style, il y a des styles assez différents au travers de l'œuvre. En fait, il faudrait éviter de penser qu'il y a de façon uniforme une belle langue figée. Il y a une langue très très vivante, un peu sauvage.
Seishonagon s'est sans doute inspiré au départ de listes de termes poétiques. Il existait d'ailleurs des textes qu'on appelait donc les Utamakura, qui étaient en fait des dictionnaires de termes poétiques. Et donc on avait par exemple montagne, et puis on donnait les listes des montagnes qui pouvaient être employées en poésie, puisque le vocabulaire de la poésie était extrêmement codifié et limité. Et donc on pense que Seishonagon s'est inspiré de ces répertoires de poésie, mais qu'elle a complètement transformé en ajoutant des appréciations totalement subjectives, en mélangeant des choses qui n'auraient jamais pu être mélangées, et c'est là qu'elle montre son génie.
On est dans un univers oral, on est dans un univers de cours où il y a beaucoup de jeux d'oralité, beaucoup d'échanges autour de la poésie qui a un rôle social, et donc on va se solliciter à l'oral. On considère que les listes étaient probablement des réponses à des espèces de devinettes. Donc par exemple, si je vous dis « choses qui sont mieux quand elles sont grandes », alors moi, je vais répondre « ceci, ceci, cela ». Donc, en fait, c'est des réponses qui sont données oralement. Et donc, les notes de chevet seraient une sorte d'enregistrement. En fait, c'est comme si on avait transformé en texte quelque chose qui aurait été capté par une bande audio. C'est du temps réel qui est fixé par l'écriture.
En matière d'écriture, celui qui, sans culture profonde, donne le change sans avoir l'air d'y toucher, en étirant par-ci par-là un point à la manière des cursives, peut, considéré d'un œil distrait, donner l'illusion du talent. Mais une écriture soignée, de style authentique, même si l'effort du pinceau n'est point visible, une simple comparaison suffira à montrer qu'elle suit de plus près les règles de l'art.
Extrait du dit du Genji de Murasakabi, Shikibu.
En fait, on ne peut pas parler de rivalité entre Seishonagon et Murasaki Shikibu. Elles vivaient toutes les deux dans deux cours différentes, et rien, aucun texte, aucune archive ne permet d'affirmer qu'elles se sont rencontrées. En revanche, il est absolument certain que toutes deux connaissaient l'existence de l'autre. Et dans son journal, Murasaki Shikibu, l'autrice du roman du Genji, écrit, je cite, « Seishonagon est une personne qui en impose en vérité par ses grands airs. Mais sa prétention de tout savoir et sa façon de semer autour d'elle des écrits en caractère chinois, à tout bien considérer, ne font que masquer de nombreuses lacunes. » Donc elle connaissait l'existence, mais cette remarque ne prouve aucunement que Murasaki Shikibu a rencontré Seishonagon. Donc elle a pu se fonder sur des propos entendus. En revanche, Seishonagon et Murasaki Shikibu avaient sans doute parfaitement conscience de compter parmi les femmes de lettres les plus importantes de leurs cours respectives. Et donc, peut-on parler de rivalité? Non. Parce que Seishonagon a inventé un genre littéraire unique qui mêle récits de la vie à la cour, réflexions personnelles et listes diverses. Et donc, elle a également inventé la prose poétique. Murasaki Shikibu, elle, apporter à un niveau jamais atteint avant elle l'art du roman. Donc le chef-d'œuvre qu'elle a écrit, le roman du Genji, se distingue par une prose d'une exceptionnelle qualité, par sa structure extrêmement complexe mais parfaitement réglée et la qualité des 760 poèmes que le roman contient.
Il y a beaucoup de personnes fascinantes. Nombreuses sont celles qui manient bien leurs plumes et qui, lorsque l'occasion se présente, sont rapides à la réplique. Mais combien ces jeunes femmes sont-elles vaniteuses de leurs propres accomplissements et s'efforcent-elles de déprécier indûment ceux des autres?
Ça veut dire que c'est, en fait, c'est un signe que qu'elle se lisait, bien sûr, et que qu'elle se respectait. Pendant longtemps, on avait cette image de deux femmes, des grandes dames de la littérature, et qui s'entendaient pas très très bien, et que là, en ce moment, il y a une nouvelle interprétation. Bien sûr, libre interprétation, parce qu'il n'y a pas de nouveaux documents historiques qui sont apparus, mais qui pensent que peut-être ce n'est pas vrai, mais que qu'ils étaient en fait deux autrices plutôt qui se respectaient.
Si j'avais choisi les choses les plus charmantes de ce monde, ou des choses que les gens trouvent merveilleuses, ou bien si j'avais écrit à propos des poèmes, mais aussi des arbres, des herbes, des oiseaux, des insectes, alors les gens auraient jasé. Ce n'est que cela. On voit bien ce qu'elle a dans le cœur. Mais je n'ai fait qu'écrire pour m'amuser toutes les pensées qui librement me venaient à l'esprit. Si bien que, ai-je pensé, si l'on compare ce livre à d'autres œuvres, il ne sera jamais apprécié, même modérément. Après tout, c'est évident. Ceux qui louent ce que d'ordinaire on n'aime pas et déprécient ce que d'habitude on admire révèlent ce faisant leur cœur. Quoi qu'il en soit, je suis bien contrariée que ce livre puisse être vu par d'autres que moi.
Cet épilogue, il est presque trop beau. Il nous donne toutes les clés d'interprétation. Il nous donne des circonstances de création. Il nous donne une intention. Il nous dit que ce texte était censé être intime, mais que par accident, il a circulé. Donc, des circonstances de diffusion. Il n'existe aucun texte de l'époque qui est livré avec, en quelque sorte, son mode d'emploi, etc. Donc, bien sûr, j'ai aucune certitude pour dire qu'il est faux, que c'est un faux qui a été rajouté ultérieurement, mais le doute peut toujours exister. Alors, est-ce que c'est Sechonagon qui a fait ça et qui l'a mis à la fin et qui a joué? Moi, je le lis comme une réponse à l'insatisfaction du lecteur face à ce chaos textuel que sont les notes de chevet. En fait, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, on a ce texte qui nous accompagne, qui nous rassure, en fait, qui nous donne une explication rationnelle au fait que cette espèce de chaos textuel existe. Il y a une raison. Mais c'est un texte qui est pas très facile à comprendre, et notamment la tension entre l'intime et le collectif. En fait, il y a tout un paragraphe assez contradictoire. En fait, l'épilogue nous dit ce texte il existe parce que le tiers ministre, donc un homme de cour de très très haut rang, a donné à sa sœur, qui est l'impératrice, des liasses de papier. Papier qui est une ressource précieuse. En plus, il est écrit que c'est un très beau papier. Donc on a le récit d'un mécénat, le fait que une ressource pour l'écriture est fournie à une écrivaine officielle pour qu'elle produise un texte au bénéfice d'un collectif qui est celui de la cour dont elle est le faire valoir. Donc là, on est entièrement dans du collectif. Et en même temps, il est écrit, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Et j'ai tellement écrit tout ce qui m'est passé par la tête que j'ai bien peur que ça va vexer ou mettre mal à l'aise certaines personnes. Donc je suis assez contrariée qu'il ait circulé. Donc à la fois, il a été créé pour circuler. En même temps, c'est mon texte, j'en ai fait ce que je voulais. En même temps, je regrette qu'il ait circulé. En même temps, les gens le lisent et me disent que c'est génial et se le partagent. Donc Il n'est pas du tout linéaire, cet épilogue. Il nous dit une chose et son contraire. Et je pense que dans cette tension, il y a justement le nœud qu'il nous faut dénouer pour essayer de comprendre la totalité du texte. Et en tout cas, même s'il y a une tension entre l'individuel et le collectif est central. Il est en amont et en aval. Il conditionne la création de ce texte même. Ce récit nous dit la circulation. Donc la circulation est la nécessaire finalité de l'existence de ce texte aussi.
À l'époque où le général en second de la section de gauche de la garde du corps, Minamoto no Tsunefusa, n'était encore que le gouverneur de la province d'Issé, et tandis que j'étais chez moi, je lui tendis pour l'accueillir une natte qui était posée près du bord extérieur de la pièce où j'étais. Mais voilà que ce livre était sur la natte. Je voulus le reprendre en toute hâte, mais il l'emporta avec lui et ne le rapporta que très longtemps plus tard. À partir de cela, mon livre commença de circuler par le monde. Ainsi est-il écrit.
Fasciné par cet épilogue qui parle du début, en fait, finalement. En fait, ce passage devait, en tout cas, une grande partie de ce passage devait être au début du livre, enfin, du début du livre, au début de son écrit. Je pense que c'est cela aussi la preuve de l'exercice formaliste de cette autrice, parce que le début arrive à la fin. Et c'est comme si, en écrivant cette fin, la fin n'existe pas. Et qu'elle se met au moment où on lui a donné ce papier blanc à remplir. Et que c'est comme si elle pouvait de nouveau commencer à écrire et écrire pour toujours.
Shonagon, le parti pris des choses. Avec les poétesses Ryoko Sekiguchi et Corinne Atlan, Evelyne Le Signe de Lis, maîtresse de conférence au département d'études japonaises à l'université de Strasbourg, qui a réalisé une traduction inédite des extraits. Et Michel Veillard-Baron, directeur d'études en philologie japonaise à l'école pratique des hautes études. Texte dit par Miyuki Okamura, Pauline Dubreuil et Assia Weber. Toute une vie. Coordination, Emmanuel Laurentin. Attaché de programme, Sandrine Chaperon. Prise de son, Claire Levasseur et Nicolas Depagraf. Mixage, Manon Houssin. Réalisation Assia Weber, une émission proposée par Michel Pomarède.